Révolution. Jean de La Fontaine vit au temps des Molières et autres Corneilles, où c'est la connivence qui est maîtresse, même dans la revendication. Nous le verrons plus tard. Le songe de Vaux, en référence à la propriété immense de Fouquet, est en préparation lorsque De La Fontaine apprend qu'une fête immense se prépare. Le surintendant des finances, non satisfait de sa position, souhaite inviter le jeune roi à une réception qu'il organisera en son honneur. Le souverain, amer, accepte. De cette journée découleront bon nombre de catastrophes qui auraient pu pourtant tuer la carrière de notre poète. Fouquet va se brûler les ailes, condamnant ceux qui se tiennent près de lui. 7 septembre 1661. Voilà 48 heures que le surintendant des finances du roi, qui jusqu'à peu semblait l'homme le plus puissant du royaume, a été mis sous les verrous par Sa Majesté Louis XIV. En cause, des malversations financières qui, en réalité, servent de couverture à la suite d'une fête grandiose donnée à Vaux-le-Vicomte et dont le souverain a pris grandement ombrage. De plus, Mazarin, le ministre, assurant la régence du temps où le soleil n'était qu'un enfant, enjoignit le roi de se méfier de l'ambitieux Fouquet alors qu'il était sur son lit de mort. Dès lors, le jeune monarque avait cherché à tout prix à faire tomber son plus influent et riche conseiller. C'était chose faite depuis le 5 septembre. L'onde de choc au niveau des hautes sphères du royaume est ahurissante. C'est d'autant plus vrai pour de nombreux artistes dont Fouquet était le protecteur et auxquels il fournissait une rente afin qu'ils puissent produire en toute sérénité leurs œuvres, si possible, à sa gloire, évidemment. C'est le cas depuis 1658 de Jean de La Fontaine que nous retrouvons éberlué et en colère, une missive chiffonnée à la main. Il vient d'être prévenu de la nouvelle et son sang ne fait qu'un tour. Des malversations financières. Il n'en croit pas, traître mot. Tout ceci n'était qu'une basse, une navrante manœuvre politique. Mais à l'instant T, le poète n'est pas qu'en colère contre le souverain de France. C'est aussi contre son bienfaiteur qu'il en a. Comment Fouquet, normalement si intelligent, avait-il fait pour ne rien remarquer? Cela paraissait absolument ahurissant. Et pourtant, le surintendant, déchu, prenait la direction d'Angers. De La Fontaine, animé par un mauvais pressentiment, en est persuadé. Personne dans le royaume ne le reverra plus jamais, si ce n'est les geôliers des prisons. Cette disgrâce, en tous les cas, ne peut rester sans réaction. Le poète abasourdi de voir que personne ne semble soutenir son ancien bienfaiteur s'empresse de voler à son secours. Jamais il n'a vécu la peau au ventre, et cela ne commencera pas aujourd'hui. Alors l'écrivain prend l'arme dont il parvient à tirer les meilleurs effets, sa plume. Jean de La Fontaine croit par-dessus tout aux valeurs de l'amitié. Il est donc pour lui une véritable question d'honneur de défendre l'intégrité de celui qu'il a protégé toutes ces années et qui lui a permis, entre autres choses, de se séparer officiellement de cette épouse qu'il n'a jamais aimée. Son fils, lui, a été mis dans les mains de François de Maucroix, un fidèle de la famille du poète. L'artiste se met donc au travail. Son but, torpiller la version officielle de la couronne et offrir à son ami Fouquet une défense digne de ce nom. Avec cette manœuvre, Jean de La Fontaine va se faire un ennemi mortel. Il s'appelle Colbert. Et cet homme-là, excusé du peu, est devenu l'oreille du roi. L'ode au roi en 1662 est le premier d'une série de textes qui vise à défendre l'honneur du surintendant déchu. Comme par hasard, pourrions-nous dire, l'année suivante, le poète quitte la capitale afin de passer quelques mois en Limousin. D'aucuns disent qu'il a été poussé à l'exil à la suite de sa prise de position pour le moins hostile au pouvoir en place. Le poète se retrouve en difficulté. devant se trouver, par la même occasion, de nouveaux protecteurs sous peine de connaître la ruine. Ce n'est qu'en 1664 qu'il retrouve une rente auprès de Marguerite de Lorraine, proche des cercles royaux. Cette dernière va lui offrir la sécurité dont il a besoin. Ouais, c'est en effet assez paradoxal, mais cette période de creux et de difficultés va rapidement devenir, pour notre héros du jour, le point de départ d'une ascension aussi surprenante que fulgurante. Sa production littéraire, sous la protection de sa nouvelle bienfaitrice, va exploser. Des romans, des contes rédigés en vers, mais toujours pas de fables. Les premières seront publiées en 1668. Jean de La Fontaine a alors déjà 47 ans et sent que le vent pourrait tourner en sa faveur. Il dédie ce premier recueil de fables au dauphin de France, le fils du roi donc, et compile un peu plus de 120 textes, mettant déjà en scène des animaux. Certaines de ses plus célèbres de ses productions y figurent, notamment le lièvre et la tortue. Son objectif déjà est on ne peut plus clair. Dénoncer certaines pratiques bien humaines en se protégeant derrière les figures animales. Après tout, son père, maître des eaux et des forêts de Château-Thierry, lui inculqua les rudiments de la gestion de la nature alors. L'auteur se sert de ce qu'il a appris à son contact, mais aussi des leçons qu'il a tirées de sa période de disgrâce. Pour éviter de nouveau d'être vilipendé et détesté du roi ou de Colbert qui le garde à l'œil, l'écrivain fait passer ses messages par des biais détournés. Qui n'a jamais appris les messages cachés derrière le corbeau ou le renard, ou bien au cœur de la cigale et la fourmi? Le succès, en tous les cas, est immense. Immédiatement, la popularité de Jean de La Fontaine remonte en flèche et son numéro, visant à rentrer de nouveau dans les grâces royales, s'il ne fonctionne pas parfaitement, lui permet tout de même de mettre fin à la période de méfiance contre lui. Ce premier recueil de fables en appellera deux autres, qui assurent véritablement sa popularité au sein de la population lettrée du pays. Les travaux de Jean de La Fontaine vont ainsi croissant jusqu'en 1680, où la nouvelle décennie qui s'ouvre semble pour lui moins faste, en quantité d'œuvres écrites du moins. Il faut dire que l'auteur a atteint son objectif, au moins en partie. À défaut d'être l'auteur le plus célèbre de son temps, il est sorti de l'anonymat grâce à sa production et surtout, il est maintenant introduit au sein du cercle des artistes les plus proches du cercle royal. Lully, Boileau, Perrault, tous côtoient, connaissent et apprécient plus ou moins l'esprit du poète. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien si la plupart de ses contacts, académiciens, poussent pour sa nomination. Il sera finalement nommé en 1682, prenant le siège de son ancien ennemi mortel Colbert, académicien décédé le 6 septembre 1683, quelques mois avant l'arrivée effective du poète au sein de la compagnie. Dommage, pourrait-on penser. Les passes d'armes entre les deux hommes auraient certainement valu le détour. Enfin, si ça peut vous rassurer, De La Fontaine n'en a pas terminé avec les prises de position et scandales. Après tout, c'est l'essence même de sa personnalité. De La Fontaine, une fois élu académicien, va prendre son rôle très, peut-être trop, à cœur. Lieu d'échange et de débat autour de la langue française depuis sa création, l'Académie va être le théâtre, en janvier 1687, d'un conflit inédit. Perrault, au sein d'une œuvre intitulée « Le siècle de Louis », tire subitement à boulet rouge sur les auteurs antiques et classiques, rejetant leur héritage. Boileau, ami de La Fontaine, en entendant ses propos, entre en conflit ouvert avec son collègue. L'institution se sépare alors en deux catégories antagonistes. Les anciens, représentés par Boileau et La Fontaine, et les modernes, qui regroupent les partisans de la vision de Perrault. Alors qu'il a prôné la modernité toute sa vie, il n'est pas si surprenant de retrouver notre héros du jour en défenseur des auteurs antiques. Ses valeurs et ses œuvres rejoignent à bien des égards celles produites par Jean de La Fontaine, dont les fables sont loin d'être novatrices. Dès le VIe siècle avant notre ère, la littérature s'est essayée à ce genre particulier des histoires moralisatrices. Le poète ne pouvait donc pas faire autrement que de défendre une lignée dont il est le descendant contemporain. Jean de La Fontaine va profiter de cette querelle pour s'installer durablement dans le paysage. Il tombe gravement malade au début de l'année 1673 et, devant la peur de mourir, se rattache en tout dernier lieu à la religion catholique, qu'il a pourtant rejetée une bonne partie de sa vie. Il va jusqu'à envisager une conversion au protestantisme. Son confesseur, en tous les cas, l'absout de ses péchés les plus terribles, au premier rang desquels ses écrits encourageant le libertinage. La légende raconte même que l'écrivain, en guise de bonne foi, déchira devant l'homme d'église sa dernière production qu'il venait d'achever avant de tomber malade. Elle tomba dans l'oubli, alors que l'écrivain, lui, s'éteignit le 13 avril 1695. Jean de La Fontaine, plus de 400 ans après sa naissance, est donc devenu une véritable légende. Plus de 300 établissements scolaires en France portent aujourd'hui son nom. Et à propos d'ailleurs, saviez-vous que le poète y a ajouté lui-même la particule devant La Fontaine ? Son père était bourgeois et non noble, et il ne sera anobli lui-même qu'en 1664 par le roi. Jean de La Fontaine fut un écrivain et un poète de génie, cela ne fait aucun doute. L'auteur aura écrit près de 250 fables réparties en 3 recueils. C'est lui d'ailleurs qui rédigea sa propre épitaphe, comme tout bon auteur qui se respecte, mais une fois n'est pas coutume. L'artiste y prend tout le monde à contre-pied, acceptant volontiers d'y dévoiler l'un de ses plus vilains défauts, sa paresse. Cela n'empêchera pas les révolutionnaires de 1789 de le porter au nu. Eux qui transporteront sa dépouille, tout comme celle de Molière, au sein du musée des monuments français.